porte avec presque tous les versets que nous allons lire ce matin. Et on va dire ceci. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Est-ce que vous le croyez? Hein? C'est pas moi qui invente ces paroles, c'est Dieu. Hein? Donc, je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen. Est-ce que vous le croyez? Bon. Vous savez, 30 décembre 2007, déjà. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable, mais vrai. Dans quelques heures, 2008 va commencer. J'aurais jamais cru. Hein? Déjà, 2008. C'est quelque chose, n'est-ce pas? Le temps passe vite. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein? On est dans un autre millénaire, on est dans un autre siècle. Et bientôt, on va commencer dans quelques années, on va commencer même un autre décennaire. C'est quelque chose, le temps passe vite. Et souvent, quand on arrive à la fin d'une année, c'est un bon temps de réflexion, n'est-ce pas? On peut réfléchir, on peut regarder en arrière juste pour voir, bon, qu'est-ce qu'on vient de passer? Qu'est-ce qui vient de se passer? Et il y a des bonnes choses qu'on a vécu. Il y a des moins bonnes choses qu'on a vécues aussi. Mais surtout, pas juste une question de regarder en arrière, surtout c'est un moment où on peut regarder en avant et voir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour nous dans les jours à venir, dans l'année à venir? Qu'est-ce que tu veux faire en 2008 dans ma vie, dans la vie de notre Église? Il y a des choses que tu veux faire. Et aujourd'hui, on va parler de cela. On va parler d'un nouveau départ parce que je pense qu'on a tous besoin à l'occasion d'un nouveau départ. Vous êtes d'accord? Et qu'est-ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est que Dieu est un Dieu qui offre l'occasion de partir de zéro et de recommencer ou de continuer dans la victoire. Peu importe qu'est-ce que vous avez vécu, des bonnes choses ou les moins bonnes, Dieu est toujours là pour vous donner un nouveau départ. La parole est remplie d'exemples. Je pense à Jonas. Jonas qui a désobéi à Dieu et qui était mangé par un poisson. Et puis, il a eu toute une cauchemar. Mais Dieu lui a donné une autre chance, n'est-ce pas? Je pense à Saul de Tarse qui a persécuté l'Église et qui a tué les chrétiens et qui a ravagé l'Église. En fait, il a mis en prison les hommes et les femmes. Et il a fait des choses horribles. Mais Dieu lui a donné un nouveau départ, n'est-ce pas? Il est devenu l'apôtre Paul. Donc, la parole est pleine d'exemples. L'apôtre Pierre qui a renié 3 fois le Seigneur Jésus, qui a menti, qui a même, si vous voulez, sacré pour dire « Non, je ne l'ai pas connu. » Dieu lui a donné un nouveau départ. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Et qu'est-ce qui est vraiment bon de savoir, c'est que Dieu ne fait exception de personne. S'il l'a fait pour les autres, il va la faire pour vous et pour moi et pour nous. N'est-ce pas? Il y a toujours de l'espoir. Et aujourd'hui, on va voir cela. En fait, le message, c'est un nouveau départ. Comment réussir le reste de votre vie? Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réussir le reste de leur vie? Peut-être vous êtes là, vous dites, mais la première partie de ma vie, tu peux pas vraiment dire que c'était une réussite, hein? C'était un échec après un autre. C'était vraiment pas agréable. J'ai eu des moments difficiles, des problèmes, des défis, des tragédies, etc. Peu importe qu'est-ce que vous avez vécu ou qu'est-ce que vous avez expérimenté, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez réussir le reste de votre vie. Et aujourd'hui, ce matin, le 30 décembre 2007, c'est la première journée du reste de votre vie. Hein, vous avez déjà vu le petit film Anne des pignons verts, n'est-ce pas? Hein? Et il y avait une ligne dans ce film, on l'a vu à plusieurs reprises dans les années précédentes. Il y avait une ligne dans le film qui dit que chaque jour, demain, c'est une nouvelle journée sans échec à date. Et c'est comme ça qu'on doit voir la vie. La vie, chaque jour. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée sans échec, sans problème. Aujourd'hui, c'est une occasion de voir la main de Dieu agir dans ma vie. C'est une occasion de voir le plan de Dieu pour ma vie réussi et accompli. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée. C'est un nouveau départ sans échec. Amen. Demain, c'est quoi? C'est le 31 décembre, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez péché le 31 décembre? Non. Non, vous avez de l'espoir. Demain, c'est une nouvelle journée sans échec. Et même le restant de la journée aujourd'hui, on n'est même pas, il n'est même pas 11 heures, le 30 décembre 2007. Donc, vous avez tout le reste de la journée devant vous. Et j'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez réussir votre journée aujourd'hui. Vous pouvez avoir une belle journée. Vous pouvez passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu et dans la présence de ceux que vous aimez. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'avec le Seigneur, on a toujours une occasion de recommencer, toujours une occasion de réussir. Et avec le Seigneur, le meilleur est toujours à venir. J'aime ça. J'ai vécu des belles choses dans ma vie. Je parle pas juste des mauvaises affaires. Moi, j'ai vécu des années merveilleuses. 2007, c'était une bonne année. Je peux pas dire que c'était sans échec ou sans défis ou sans problème. On a eu énormément de défis en 2007, mais on a eu énormément de victoires en 2007 aussi. Gloire à Dieu. Mais j'aime beaucoup 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 qui dit « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. » C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. On va toujours, avec le Seigneur, on va toujours de gloire en gloire. Ou on est supposé d'aller toujours de gloire en gloire. La vie est supposé, pour un chrétien, pour quelqu'un qui connaît Jésus, nous sommes supposés de grandir en Jésus-Christ et demain est supposé d'être mieux qu'aujourd'hui. J'ai pas dit que demain est supposé d'être plus facile qu'aujourd'hui, mais demain est supposé d'être mieux qu'aujourd'hui. On devrait voir plus de sa gloire dans ma vie et dans votre vie, dans notre vie. On est supposé de voir plus de la présence de Dieu, plus de la main de Dieu, plus de la provision de Dieu, plus des promesses de Dieu en manifestation. Est-ce que ça vous intéresse? Bon, qu'est-ce qu'on va faire pour réussir le reste de notre vie? Et ça m'étonne vraiment. Moi, je sais que Dieu m'a placé sur la terre pour une raison. Dieu vous a placé sur la planète Terre pour une raison. Je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que vous allez faire avec le reste de votre vie? Pour quelques-uns de vous, il vous reste longtemps à vivre sur la terre. Vous êtes jeunes. Pour d'autres personnes, il vous reste moins de temps à vivre sur la terre. Mais peu importe où vous êtes, dans quelle saison de votre vie où vous vous trouvez, vous pouvez réussir le reste de votre vie. Et on va voir comment aujourd'hui. Regardons le verset que nous avons pris comme un de nos textes aujourd'hui, 1 Pierre chapitre 4, verset 2. J'aime ça parce qu'encore c'est l'apôtre Pierre, celui qui a connu les échecs lui, hein. Il a connu des problèmes dans sa vie, il a eu des moments difficiles, mais le Seigneur lui a déjà donné à plusieurs reprises un nouveau départ. Il a réussi le reste de sa vie. Verset 2 de 1 Pierre chapitre 4, regardons ceci. « Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie. » Tout le monde dit « le reste de votre vie. » Le reste de votre vie, et voici le mot-clé « terrestre ». Parce que votre vie terrestre va prendre fin un jour. Mais votre vie spirituelle ne prendra jamais fin. Vous avez déjà reçu la vie éternelle. Et en fait, voici la réalité. Chaque être humain est créé à l'image de Dieu. Chaque personne qui existe sur la planète Terre va exister éternellement. Mais ce n'est pas tout le monde qui va vivre éternellement. Il y a des gens qui vont exister éternellement, séparés d'avec Dieu, même à l'enfer. Il y a d'autres personnes qui vont vivre éternellement dans la présence de Dieu. Et si vous êtes chrétien aujourd'hui, si vous avez reçu personnellement le Seigneur Jésus, vous avez l'espérance de passer l'éternité en vie dans la présence de Dieu. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. En effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans le vice, les mauvais désirs, l'ivrognerie, les orgies, les beuveries, l'abominable culte des idoles. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux, aux excès d'une si mauvaise conduite, et ils vous insultent. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu, qui est prêt à juger les vivants et les morts. Est-ce que vous venez de saisir qu'est-ce qu'on vient de lire? Ça, c'est tout en passage ici. Tout en passage, on voit beaucoup de choses là-dedans qu'on a besoin de souligner ce matin. En fait, juste pour commencer, il y a 4 points qu'on veut tirer de ces versets qu'on vient de lire. 4 points qui sont tellement importants que si vous voulez réussir votre vie, il faut saisir et comprendre ces 4 choses. Et puis par la suite, on va vous donner des choses pratiques. Le OM, c'est le oui, mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire cela? La parole de Dieu nous donne les conseils très pratiques et très terre à terre pour pouvoir réussir sa vie ici sur la planète. Est-ce que ça vous intéresse de réussir votre vie sur la planète Terre? Donc, première chose qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il ne faut pas oublier que votre temps sur la Terre est limité. Regarde quelqu'un et dit, votre temps est limité. Et ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une menace, c'est juste une réalité. Votre temps est limité. Je ne vais pas vivre éternellement ici sur la terre dans mon état actuel. Et vous n'allez pas vivre éternellement sur la terre non plus. Votre temps sur la planète Terre est limité. Mais ça, c'est pas négatif. C'est épeurant pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est épeurant de savoir, je vais mourir un jour. Mais on sait, on a vu il y a quelques semaines que Jésus est venu et il a vaincu celui qui avait le pouvoir de la mort, Satan, qui nous a gardés esclaves. Pourquoi est-ce que nous étions esclaves? Parce qu'on avait peur de mourir, on avait la crainte de la mort. Mais ceux et celles qui sont en Jésus-Christ, ils ne devraient plus avoir peur de mourir. Et si on n'a pas peur de mourir, on ne peut plus être esclave de Satan. Vous êtes d'accord? Mais il ne faut pas oublier que votre temps sur la terre est limité. Jacques 4, 14 dit ceci, « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Et c'est dur à saisir, surtout quand nous avons 10, 12, 14, 15 ans, on a l'impression que nous allons vivre pour toujours. On a j'ai entendu juste cette semaine, il y avait un jeune garçon de 11 ans qui était enterré dans une avalanche. Est-ce que vous avez entendu l'histoire? Il a survécu. Mais il était enterré dans une avalanche, il faisait du ski et puis il était dans les montagnes et pouf, enterré. Et heureusement, il a regardé une émission à la télévision quelques semaines ou mois avant, je ne sais pas combien de temps avant, mais il a entendu comment survivre dans un tel cas, qu'il fallait faire des petits espaces d'air où on peut respirer, etc. Donc, c'est ça qu'il a fait, il a survécu. Malheureusement, il y avait un autre homme proche de lui qui n'a pas survécu, qui est mort, il est décédé. Mais quand ils ont parler avec le garçon et pendant quelques temps, il était inconscient, il ne savait pas qu'est-ce qui se passait, et il y avait des gens qui essayaient de le sauver, mais quand il est revenu à ses bons sens, il savait qu'est-ce qui se passait, lui il disait, waouh, c'est vraiment cool, hein, que tous les autres, ils savaient qu'est-ce qui se passait, moi je ne savais pas, lui il a vu ça comme une grande aventure presque. Oh, c'était cool, donc on voit souvent chez les jeunes, les ados, ils ont cette impression que je suis invincible. Il n'y a rien qui peut se passer. Je vais toujours vivre. C'est pourquoi ils font des bêtises des fois. Ils prennent le volant, ils conduisent trop vite, ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire parce qu'ils pensent que, de toute façon, je suis jeune, je ne peux pas mourir. J'ai une nouvelle à vous annoncer. Ça ne marche pas de même. Mais savez-vous quoi? plus on avance en âge, et moi je suis très jeune aujourd'hui, je suis juste à peine, j'ai à peine dépassé l'adolescence, hein, vous savez. Donc, mais vous demandez à mes enfants, ils vont dire que je suis un dinosaure, mais... On voit que, on se rend compte du fait que, oui, c'est vrai, la vie est plus fragile, n'est-ce pas? La vie est plus fragile. Notre temps sur la terre est limité. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Même une personne qui va vivre 120 ans sur la terre, et c'est possible, il y a des personnes qui vont vivre 120 ans. 120 ans, comparé avec l'éternité, c'est vite fait. Vous êtes d'accord? Et moi, franchement, je m'en souviens de la journée quand j'avais 16 ans. J'ai eu mon permis de conduire et c'est comme si c'était hier. Mais là, aujourd'hui, j'ai 17 ans. Non, j'ai 40 ans. Mais de 16 à 40, wow, il me semble que de 16 à 40, c'est passé beaucoup plus vite que de 0 à 16. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se rendent compte du même affaire? Mais c'est pas négatif. C'est pas négatif si nous savons pourquoi nous sommes sur la planète Terre et si nous savons comment réussir le reste de notre vie. C'est ça notre sujet aujourd'hui. Donc c'est quoi la deuxième chose qu'on a besoin de tirer de ce verset? C'est qu'il faut être résolu de vivre le reste de votre vie pour Dieu. Bon, voici la fin. On vient à Jésus, on donne sa vie à Jésus-Christ, on se rend compte du fait que bon, je suis pécheur, j'avais besoin d'un sauveur, j'avais besoin de me repentir, mais une fois que je donne ma vie à Jésus, il faut que je prenne une résolution. On parle souvent des résolutions de la nouvelle année, n'est-ce pas? Mais on a besoin de prendre une résolution qui va durer pour le reste de notre vie. On a besoin d'être résolu que dès aujourd'hui et jusqu'au jour que je meurs, je vais vivre pour Dieu et non plus pour moi-même. Et ça, c'est le secret de la réussite, n'est-ce pas? Regardons 2 Corinthiens 5, 14 et 15, encore un de mes versets préférés que vous entendez souvent, mais ça vaut la peine de le répéter. Et pourquoi est-il mort pour tous? Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie nouvelle ne continuent pas à mener, selon leur gré, une petite vie égoïste. Tu devrais souligner la phrase « petite vie égoïste ». Mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur place et qui fut ressuscité pour leur salut. Voulez-vous réussir votre vie ici sur la terre? Le reste de votre vie, ne vivez plus pour vous-même, mais vivez pour Dieu. Ça, c'est la clé de la réussite. Chaque vie, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie, mais si les plans et les projets que vous avez formés ne sont pas destinés à glorifier Dieu et à honorer sa présence dans votre vie et à honorer son plan pour votre vie, peu importe qu'est-ce que vous faites, vous pouvez avoir une idée de monter et de fonder un commerce ou je ne sais pas, un organisme même à but non lucratif et faire du bien aux enfants pauvres, etc. Vous pouvez faire toutes les belles choses que vous pouvez imaginer. Mais si vous ne faites pas ça pour Dieu, votre vie est un échec. Allô? La seule vie qui compte et la seule chose qui compte, c'est ce que nous faisons avec Dieu, par Dieu et pour Dieu. Amen. Il y a un dicton en anglais, « One's life will soon be passed, only what's done for Christ will last. » Et ça veut dire tout simplement, votre vie sera bientôt passée. La seule chose qui compte, c'est ce que vous allez faire pour le Seigneur Jésus. La seule chose qui compte. Vous pouvez faire toutes les autres belles choses que vous pouvez imaginer. Vous pouvez avoir la plus belle maison, la plus belle auto, une carrière qui est incroyable, prendre les meilleures vacances de rêve. Et ça vaut rien si vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a demandé de faire. Vous êtes d'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord, c'est vrai quand même. Donc, on voit cela dans ce verset. Hein? Il dit... Il a dit cela, dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu et non selon les désirs humains. Mais verset 3 dit, en effet, vous avez passé autrefois suffisamment de temps à faire ce qui plaît aux païens. Vous avez vécu dans les vices, les mauvais désirs, les bourgneries, les orgies, les beuveries, l'abominable culte aux idoles, etc. Et maintenant, les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livrez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite et ils vous insultent. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est que, troisième chose, il faut laisser le passé dans le passé. Si vous voulez vraiment réussir le reste de votre vie, vous ne pouvez plus vivre comme vous avez vécu autrefois. Vous ne pouvez pas vous laisser influencer par votre passé. Vous ne pouvez pas vous laisser limiter par les erreurs, les échecs, les problèmes de votre passé. Et vous ne pouvez même pas vous laisser limité par les succès de votre passé. Il faut laisser le passé dans le passé. Oui, bien entendu, à l'occasion, c'est bon de regarder en arrière et dire, « Merci Seigneur, tu as été fidèle. Je m'en souviens d'où j'étais, mais maintenant je sais que j'ai encore de route à faire. Merci Seigneur pour toutes les victoires. Merci Seigneur pour toutes les occasions où vous m'avez sauvé, délivré, pardonné. Mais c'est pas la fin de l'histoire. Il faut que je laisse le passé dans le passé si je vais aller de l'avant. Est-ce que vous savez que le seul moment, étant dans notre corps physique, la seule place où on peut vraiment vivre, c'est dans le présent. Vous ne pouvez pas vivre dans le passé. Et vous ne pouvez pas vivre dans le futur non plus. Mais vous pouvez vivre aujourd'hui. Amen. Mais combien de personnes, ils essaient de vivre dans le passé? Ils refusent d'aller de l'avant aujourd'hui à cause des échecs du passé. Mais j'ai eu un problème. J'ai déjà essayé ça. J'ai déjà ouvert mon cœur une fois à une personne et mon cœur a été brisé, donc jamais plus, jamais plus, jamais plus. Hein? Ou j'ai déjà essayé de vivre pour Dieu et ça n'a pas trop bien fonctionné, donc je ne pense pas que ça va marcher dans le futur. Il ne faut pas laisser les échecs du passé vous empêcher de vivre aujourd'hui. J'ai déjà essayé de développer une vie de prière et de lire la Bible régulièrement, mais j'ai toujours échoué. Alors donc, je ne sais plus. Non? Est-ce que ça, c'est la bonne attitude à avoir? Laissez-moi vous dire une chose. Vos échecs ne sont pas vos ennemis, forcément. Savez-vous que vos échecs ne sont pas vos ennemis? Il y a tellement de personnes qui ont tellement peur d'échouer qu'ils font rien. Mais ne rien faire, c'est le plus grand échec. Vous avez déjà échoué avant de faire autre chose parce que vous avez pris une décision. Savez-vous quoi? Décider de ne rien faire, c'est quand même une décision. J'ai pris une décision de ne rien faire. Alors, mais vaut mieux essayer, n'est-ce pas? Je pense à... Est-ce que vous êtes content d'avoir l'électricité ce matin, avoir les ampoules? Ce matin, à 5 heures du matin, le courant était en panne chez nous. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y avait pas de lumière. Et j'en avais besoin. Et je me suis rendu compte du fait que jusqu'à quel point nous sommes dépendants de l'électricité. Je cherchais les allumettes, je cherchais les chandelles pour que je puisse lire la Bible, les choses. Et c'est pas évident. Combien je suis content et reconnaissant pour l'ampoule électrique. Est-ce que vous êtes d'accord? Mais savez-vous quoi? Le monsieur qui l'a inventé, les nombres d'échecs qu'il a eu, c'est presque innombrable. Je pense que si je ne me trompe pas, j'hésite de donner les chiffres parce que c'est entre 10 000 et 50 000. Je m'en souviens plus. Il a fait les expériences. Il a essayé plusieurs moyens de créer, de fabriquer un fil qui pourrait brûler et sans se détruire. Donc, il a essayé, c'était entre 10 et 50 000 fois, quelqu'un peut me corriger, mais une fois, son assistant lui a posé la question, « Monsieur Edison, est-ce que tu n'es pas découragé après avoir eu 10 000 échecs? » Il a dit, non, pas du tout, je ne suis pas découragé. Moi, j'ai découvert et je connais maintenant 10 000 choses qui ne marchent pas. Amen. Mais je pense que c'est entre 10 et 10, combien, je m'en souviens plus, mais regarde, est-ce que vous êtes content qu'il a persévéré? Imaginez s'il aurait essayé une fois, « Oh, ça marche pas, mon affaire. Cherche-moi une autre bougie. Où sont les chandelles? Donne-moi les allumettes. Hein? Ça, c'était fou, j'aurais jamais dû penser que c'était possible. » Non, il a continué, il n'a pas lâché. Et combien de vous, vous avez essayé des choses que Dieu a mis dans votre cœur et vous êtes tombé? C'est pas grave tomber. Mais qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez faire quand vous vous redressez? Il faut toujours tomber en avant. Est-ce que vous me suivez? Il faut toujours tomber en avant. Comme ça, quand vous vous redressez, vous êtes plus avancé. J'ai lu cela il y a pas longtemps, quelqu'un qui disait, les grands leaders sont les personnes qui n'ont pas peur d'échouer. Ils n'ont pas peur d'échec. La plupart des entrepreneurs qui ont réussi une commerce, par exemple, qui ont bâti une commerce de zéro, et aujourd'hui ils ont des compagnies extraordinaires, la plupart ont, eux, en moyenne de 3 échecs majeurs avant de réussir. La plupart ont en moyenne de 3 échecs majeurs. On échoue, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelqu'un qui est vraiment conscient de sa destinée, qui a une vision pour sa vie, il est capable de comprendre que, ah, oui, j'ai fait une erreur, ça marche peut-être pas, comme ça, je vais faire un ajustement. Alléluia! Et je vais avancer. Quelqu'un qui fait 3 pas en avant et 2 pas en arrière, peut être vraiment découragé, ou il peut dire, je suis quand même un pas plus avancé qu'avant. Amen? J'aime mieux pas faire des pas en avant, en arrière, mais si je suis obligé de faire à l'occasion quelques pas en arrière, je suis quand même avancé. Et je vais continuer jusqu'au moment que je vais jusqu'au bout. Qu'est-ce que vous allez faire avec le reste de votre vie? Est-ce que vous allez laisser votre passé vous paralyser? Ou est-ce que vous allez vous débarrasser de votre passé? Comme Paul a dit ici en Philippiens chapitre 3, « Non, frère, je ne pense pas avoir déjà obtenu le prix, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Ainsi, je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir là-haut. » Savez-vous qu'il y a un prix à recevoir là-haut? Est-ce que ça vous intéresse de recevoir le prix que Dieu a pour vous? Et le prix est au-delà de qu'est-ce que vous pourriez imaginer. C'est tellement bon, c'est tellement grand, c'est glorieux, et c'est une chose qui va durer pour éternité. Mais si vous voulez atteindre le prix qui est là-haut, il faut oublier qu'est-ce qui est en arrière. Je fais une chose, j'oublie qu'est-ce qui est en arrière. Pense à celui qui parle. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul avait les occasions, de temps en temps, de se laisser décourager par son passé? Pensez-vous que peut-être l'ennemi, le diable, aurait à l'occasion chuchoté dans son oreille en disant, « Hey, mais est-ce que tu t'en souviens de qu'est-ce que tu as fait avec Étienne? C'est toi qui étais en charge quand ils ont lapidé cet homme de Dieu, cet homme plein de foi, cet homme qui faisait du bien, cet homme qui faisait des miracles. C'est toi qui l'as tué. Et c'est sa famille est encore sans père aujourd'hui à cause de toi. » Hein? Est-ce que vous pensez que, à l'occasion, l'ennemi aurait pu essayer de lui donner des cauchemars et il avait les images de ces personnes que, quand il traînait les hommes de leur maison et il voyait les enfants et les femmes qui pleuraient en disant, « Non, prends pas mon mari, prends pas papa, reviens. » Pensez-vous pas qu'il avait l'occasion d'avoir ces genres de pensées? Mais non, Paul avait pris une décision. J'oublie qu'est-ce qui est en arrière. J'ai été crucifié avec Christ. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vous assure, vous avez peut-être fait des bêtises et des choses horribles, mais Paul aussi. Et il n'y a personne ici qui n'a pas fait des gaffes, qui n'a pas fait des choses, qui n'a pas péché. Et chaque péché fait énormément du tort et du mal aux autres. Vous êtes d'accord? Mais il faut oublier cela. Il faut effacer de notre mémoire par le sang de Jésus ces choses en sachant que nous sommes les nouvelles créations de Jésus. Nous sommes les nouvelles espèces de créatures qui n'ont jamais existé auparavant. Et ceux que j'étais n'existent plus. Je suis une nouvelle personne. Amen. Alléluia, laissez le passé dans le passé. Et puis, quatrième chose qu'on voit dans ce passage, c'est qu'il faut être motivé par le fait que vous allez rendre compte à Dieu pour votre vie. On voit dans le verset qu'on a lu, « Maintenant les païens s'étonnent de ce que vous ne vous livriez plus avec eux aux excès d'une si mauvaise conduite et vous insultent. » Donc, ne soyez pas étonnés si le monde commence à se moquer de vous si vous vivez pour Dieu. Mais ils auront à rendre compte de leurs actes à Dieu qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ça, c'est une réalité qu'on oublie bien trop souvent. Qu'un jour, je vais être face à face avec mon Créateur. Regarde quelqu'un et pose-lui la question, est-ce que vous êtes prêt à rencontrer votre Créateur? Bonne question. Et tout de suite, OK. Mais pas tout de suite. On a besoin de toi. Mais est-ce que vous êtes prêt à le rencontrer? Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut être prêt à le rencontrer? Seulement quand nous savons que nos péchés sont purifiés et lavés et effacés par le sang de Jésus. Moi, je ne serais pas prêt à rencontrer mon Créateur sans avoir reçu le sang précieux de l'agneau. Parce que je sais que en moi-même, je ne suis pas juste, mais en lui, je suis juste. Mais quand même, qu'est-ce qu'on voit là-dedans, 2 Corinthiens 5, 10, « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. » Vous savez que qu'est-ce que vous faites étant dans votre corps est important. Amen. Et on voit dans la parole de Dieu, et je vais juste le dire vite, qu'il y a deux groupes de personnes qui vont rencontrer le Créateur. Le premier groupe de personnes, c'est ceux et celles qui sont sauvés, qui sont nés de nouveau. Et la Bible dit qu'au moment donné, la trompette va sonner et tous ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier et nous qui restons pour son avènement, nous serons enlevés de la terre et nous allons rejoindre toutes ces personnes dans les airs et nous allons rencontrer Jésus et nous serons avec Jésus pour éternité. Ça, c'est ceux qui ont reçu le don gratuit de la vie éternelle qui sont, comme Jésus a dit, nés de nouveau. Mais même nous qui sommes, nous sommes nés de nouveau, nous allons apparaître devant qu'est-ce que la Bible appelle le tribunal de Jésus-Christ. Et c'est pas le trône de jugement. C'est une place où Dieu va récompenser ses enfants pour qu'est-ce qu'ils ont fait étant dans leur corps. C'est différent. Le deuxième groupe de personnes, c'est ceux et celles qui n'ont pas accepté Jésus, qui sont pas encore nés de nouveau, qui sont pas nés de nouveau. Et ça, c'est ceux et celles qui vont apparaître devant le grand trône blanc du jugement. Et là, ils vont être jugés pour leur péché. Là, ils vont être jugés pour ne pas avoir reçu Jésus comme sauveur et Seigneur. Et ces personnes-là vont être jetées dans les temples de feu pour éternité. Mais nous, qui sommes sauvés, nous n'allons pas apparaître devant le grand trône blanc du jugement, nous allons apparaître devant le tribunal de Jésus-Christ. Et c'est là où on va recevoir les récompenses. Et la Bible dit qu'il y a quelques-uns qui ont bâti sur le fondement avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses, ils vont recevoir une grande récompense. Il y a d'autres qui auront bâti avec du foin, du chaume et des choses qui n'ont pas de valeur éternelle. Et ces personnes-là vont avoir une perte. Ils vont être sauvés, ils vont passer l'éternité au ciel, mais ils vont perdre les récompenses. Donc, est-ce que vous voyez que qu'est-ce que nous faisons avec le reste de notre vie compte? C'est important. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je vous donne la parole. C'est Dieu qui parle nous ce matin. Il nous a donné cette exhortation dans 1 Pierre chapitre 4, que dès maintenant, vous devez donc vivre le reste de votre vie terrestre selon la volonté de Dieu. Et non selon le désir humain. Donc, ça m'intéresse. Je veux faire la volonté de Dieu pour ma vie. Un jour, je vais être face à face avec Jésus et je veux entendre Jésus dire, Ken Taylor, bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans ton repos. Amen. Est-ce que vous voulez entendre votre Seigneur dire, « Bien fait, vous avez fait tout ce que je vous ai demandé à faire. » Alléluia. OMC. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cela veut dire? Oui, mais comment? Comment est-ce qu'on peut faire cela? Vous savez que la parole nous donne la réponse. En Éphésiens chapitre 5, regardons. Je vais juste vous donner quelques conseils pratiques pour terminer aujourd'hui. Vous pouvez prendre ces principes, vous pouvez les étudier, les méditer dans le but de les mettre en pratique et ça va transformer votre vie. Éphésiens chapitre 5. Alléluia. Savez-vous qu'il est important que vous fassiez qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez? C'est important pas juste pour vous, mais pour nous aussi. Savez-vous que l'Église a besoin de vous? Savez-vous que le monde a besoin de l'Église? Savez-vous que si vous faites qu'est-ce que Dieu vous demande à faire, qu'il y a d'autres personnes qui vont passer l'éternité au ciel au lieu d'être à l'enfer? Ça devrait être une bonne motivation, n'est-ce pas? Éphésiens chapitre 5, verset 15 dit ceci, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Vous voyez, on vient de lire une belle recette pour une vie réussie. Comment réussir le reste de votre vie? Mettez ces choses qu'on vient de lire en pratique et je vous garantis que vous allez réussir votre vie. Comment est-ce que je peux donner une telle garantie? Parce que c'est pas moi qui l'a dit, c'est la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? C'est la Bible que je vous donne ce matin. Je vous donne la parole inspirée de Dieu. Et vous pouvez faire tout ce qu'elle dit que vous pouvez faire. Amen. Et si la Bible dit, voici comment vivre, voici comment, voici la manière qu'il faut vivre pour réussir. Voici ce qu'il faut faire. Et voici aussi la bonne nouvelle. On a vu il y a quelques semaines que c'est Dieu qui travaille en vous, qui agit en vous, et c'est lui qui vous donne le vouloir et le pouvoir. C'est lui qui vous donne le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, si vous avez le moindre étincelle de désir de faire la volonté de Dieu pour le reste de votre vie. Est-ce qu'il y en a qui, c'est le cas? Laisse-moi voir votre main. Vous avez une petite désir de faire la volonté de Dieu pour votre vie. Quelque chose. Peut-être qu'il y a une partie de vous qui dit non, ça ne me tente pas, mais une petite désir. Juste lève ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il faut. Alléluia. Si vous n'avez pas levé la main, je pense que vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Parce que je peux pas croire qu'il y a quelqu'un ici, dans la salle, aujourd'hui, qui ne veut pas, quelque part dans les profondeurs de son être, trouver un petit désir de vivre pour Dieu. Peut-être vous êtes tellement déçu, blessé, vous avez eu tellement d'échecs ou de déceptions que vous voulez même pas oser croire que c'est possible. Mais je vous donne une bonne nouvelle ce matin. Dieu agit en vous et il vous donne le vouloir et le faire. Et si tu veux, tu peux. Même si tu veux juste un petit peu, tu peux le faire. Tu peux vivre pour Dieu. Et le reste de ta vie peut être le meilleur de votre vie. Au lieu de, voici le problème. Souvent, il y a des personnes, au lieu de améliorer, ils vont devenir amers. Mais Dieu veut que vous échangiez l'amertume pour l'amélioration. Amen. Regardons ceci. Deuxième page de vos notes. Je vais juste vous donner... Ah, je sais pas comment. J'ai changé ça, mais j'ai pas copié la bonne... Mais en fait, c'est 7 conseils, parce qu'il y a deux fois ici. Je l'ai changé une fois, mais j'ai pas mis la bonne copie dans l'ordinateur. Je m'excuse. C'est 7 conseils pour réussir le reste de votre vie. Qu'est-ce qu'on vient de venir dans Éphésiens 5, 15 à 20. Il y a des choses pratiques, terre à terre. Combien de vous êtes contents de savoir que Dieu nous donne toujours les instructions et nous montre comment faire les choses? Donc, si on veut vivre d'une manière qui est juste et qui est correcte pour réussir notre vie, première chose, numéro un, vivez avec la conscience de votre responsabilité. On le voit ici dans la parole vivante. Veillez donc avec un soin tout particulier à votre manière de vivre. Agissez avec la conscience de votre responsabilité. Tout le monde dit responsabilité. Ne vivez pas au jour le jour sans penser à plus loin comme ceux qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie. Savez-vous qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le vrai sens de la vie? Ils pensent que la vie, c'est métro, boulot, dodo. Ils pensent que la vie, c'est quoi? C'est le plaisir, c'est un bon emploi, un bon salaire, des belles vacances, une belle maison, une grosse auto. Vous pouvez remplissez le blanc. Il y a des personnes qui sont tellement confus. Ils savent pas c'est quoi la raison d'être ici sur la terre. Vivez avec la conscience de votre responsabilité. Savez-vous que si vous êtes sur la terre aujourd'hui, que Dieu veut que vous fassiez quelque chose avec lui et pour lui. Sinon, à chaque fois que quelqu'un donne sa vie à Jésus, on irait directement au ciel, n'est-ce pas? Ça serait le fun, n'est-ce pas? Ça serait le fun pour nous, mais ça serait moins drôle et moins le fun pour ceux qui ont toujours besoin de connaître Jésus. Et je pense à Esther. Esther, elle avait ce sentiment, elle a eu cette révélation de sa responsabilité. Vous vous rappelez de l'histoire d'Esther? Toute la race juive était menacée. Il y avait un complot. Ils voulaient tuer tous les juifs. Et puis, heureusement, Dieu, dans sa sagesse, il a placé Esther dans le palais du roi. Et elle est devenue la reine à l'époque. Et puis, elle avait accès au roi. Mais il fallait, à chaque fois qu'on s'approchait du roi, il fallait être invité. Si on s'approchait du roi sans être invité, on pourrait être tué. C'était vraiment sévère. Donc, Esther avait une occasion de se présenter devant le roi pour plaider le cas de son peuple, pour dévoiler le complot qui a été formé pour tuer tous les Juifs. Mais elle savait que c'était à risque de perdre sa vie. Si le roi était de bonne humeur et s'il étendait son sceptre en disant « Bon, je t'accepte, tu peux parler, tout est correct, tout est beau. » Mais si, pour une raison quelconque, le roi n'était pas de bonne humeur, le roi dirait « Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai pas invité, je t'ai pas invoqué. » Ça aurait pu être la fin de sa vie. Mais Esther a compris quelque chose. Elle a dit ici « Va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Est-ce que vous voyez son attitude? Elle a dit que « Peu importe, je n'ai qu'une seule vie à vivre. » Vous avez entendu parler du Martin Luther King Jr., celui qui a combattu longtemps pour les droits des Noirs aux États-Unis. Lui, il a pris une décision. Il savait que c'était dangereux de faire qu'est-ce qu'il faisait. Il a pris des risques, mais il a connu, il a accepté la responsabilité de le faire. Et il a dit quelque chose une fois, je pense à un membre de sa famille. Il a dit qu'écoute, si je meurs à 30 ans ou si je meurs à 90 ans, même si je meurs à 90 ans, vieux, dans mon lit, je serai aussi mort qu'à 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans le fond? Il a choisi de mourir jeune après avoir vraiment vécu à place de passer du temps et mourir vieux dans un lit quelque part. Mais combien de personnes sont contents qu'il a pris une décision de faire qu'est-ce qu'il avait à faire dans la vie? Et c'est vrai qu'il a perdu sa vie à 30 quelques ans. Il a perdu sa vie, mais imaginez s'il n'aurait rien fait. Personne, aujourd'hui, quand j'aurais posé la question, qui connaît Martin Luther King Jr.? Qui? On entend jamais parler des personnes qui vont juste faire rien dans la vie et mourir tranquillement sans avoir accompli quoi que ce soit. Mais on sait c'est qui. On sait qu'est-ce qu'il a fait. On connaît son histoire. Pourquoi? Parce qu'il a pris une décision de vivre. Amen. Il a vécu avec la conscience de sa responsabilité. Regarde quelqu'un d'autre et dis, vous avez une responsabilité. Est-ce que vous êtes content d'être à l'église ce matin? Savez-vous quoi? La vraie vie, comme Jésus dit, celui qui essaie de sauver sa vie va la perdre, mais celui qui perd sa vie pour moi va la trouver. Numéro 2, marcher dans la lumière du temps critique que nous vivons. Encore dans la parole vivante, comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savent tirer le meilleur parti de la période présente. Regarde quelqu'un d'autre et demande-le, avez-vous l'heure? Et puis, répondez maintenant, oui, c'est le temps de vivre pour Dieu. Savez-vous, il faut être conscient du temps critique que nous vivons. Nous sommes dans les dernières minutes des derniers jours. Tous les signes des temps annoncent que Jésus revient bientôt. Mais si on ne sait pas, on ne va pas réussir le reste de notre vie. Mais si on est conscient que, wow, nous vivons un temps merveilleux, c'est le moment où l'Église de Jésus-Christ va se lever et va faire des exploits comme jamais auparavant. Nous allons aller guérir les malades et voir que les hommes soient sauvés. On va voir les nations venir à Jésus. Amen. Alléluia. Donc, marcher dans la lumière du temps critique. C'est comme encore si on parle d'Esther. Son oncle lui a dit ceci. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, soulignez cette phrase, en tant comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Savez-vous que nous sommes venus au royaume de Dieu? Mais est-ce que vous savez pourquoi vous êtes venus au royaume de Dieu? C'est pour un temps comme celui-ci. Nous sommes dans les dernières minutes des derniers jours. Et si vous voulez réussir votre vie, il faut être conscient de cela. Numéro 3, devenez maître de votre temps. On parle de comment réussir le reste de votre vie. Première chose, il faut vivre avec la conscience de votre responsabilité. Marcher dans la lumière du temps critique que nous vivons. Et troisièmement, devenez le maître de votre temps. Et ça, c'est mon défi cette année, en 2008. Moi, j'ai pris une décision, je vais devenir maître de mon temps comme jamais auparavant. Combien de fois nous sommes prisonniers, tyrannisés par l'urgent. Et on passe à côté de ce qui est vraiment important. Parce qu'on s'occupe de ce qui est urgent. Est-ce que vous me suivez? C'est urgent, il faut qu'on fasse cela. C'est important de prendre du temps avec Dieu. C'est important de lire la Bible. C'est important de prier. C'est important de passer du temps avec sa femme et ses enfants. Oui, mais il y a d'autres choses qui sont plus urgentes. Donc, on laisse de côté l'important. Et on a besoin de devenir maître de son temps. On pourrait faire toute une série là-dessus, mais moi, ça, c'est mon défi. Je sais que c'est là, si on veut avoir plus de succès dans la vie, je sais que pour moi, personnellement, c'est là où j'ai besoin, cette année, c'est ma résolution, je vais devenir maître de mon temps plus que jamais auparavant. Je veux accomplir plus avec le temps qui me reste ici sur la terre. Et vous? Devenez maître de votre temps. Profitez de toutes les occasions favorables, malgré les difficultés de l'heure. Oui, précisément parce que nous vivons un temps où domine le mal. J'aime beaucoup le psaume 90, 12 qui dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Savez-vous que vous avez 365 jours en 2008? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui va avoir 370? J'aimerais en acheter 5. Ça marche pas comme ça. Nous avons tous le même nombre d'heures et le temps va passer. Veux pas. Il n'y a rien que vous pouvez faire pour arrêter l'horloge. Les jours vont venir, les jours vont finir. Et à chaque seconde qui passe, il y a quelqu'un qui passe à l'éternité. Vous savez? il y a quelqu'un. À chaque fois que je tape mes mains, il y a quelqu'un qui meurt et quelqu'un qui passe à l'éternité. Quelques-uns vont passer l'éternité avec le Seigneur, quelques autres vont passer l'éternité séparés d'avec lui parce qu'ils n'ont jamais eu l'occasion d'entendre la bonne nouvelle ou ils ont rejeté la bonne nouvelle. Donc le temps passe. On ne peut rien faire pour arrêter le temps. On ne peut pas acheter plus de temps, mais on peut racheter le temps dans le sens qu'on peut profiter, saisir chaque occasion qui se présente devant nous pour pas gaspiller le temps, mais pour investir le temps. Amen. Alléluia. Donc, numéro 4, cherchez toujours à comprendre et à faire la volonté de Dieu. On parle de comment réussir le reste de votre vie. Et si vous cherchez en tout temps et en toutes circonstances à comprendre et à faire la volonté de Dieu, verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables et imprudents, ne vivez pas en dilettante, mais à travers tout ce qui vous arrive. Soulignez cela, tout ce qui vous arrive, en toutes circonstances, cherchez à comprendre ce que le Seigneur veut vous dire, puis tenez-vous fermement à ce qu'il vous demande. Voulez-vous vraiment réussir votre vie? Le succès n'est pas une destination, le succès c'est un voyage. Allô? Même chose pour l'échec. Savez-vous qu'un échec c'est pas une destination, un échec c'est un voyage. Quelqu'un qui va échouer en examen, souvent l'échec c'est pas produit la journée même de l'examen. L'échec c'est produit dans les semaines avant, quand il était supposé d'étudier et d'apprendre le contenu du cours. Et quand il a décidé de jouer à Xbox au lieu d'étudier. N'est-ce pas? Ça, c'est l'échec. C'est à chaque jour l'échec. Ce n'est pas juste une destination. Quelqu'un qui prend une décision de commettre l'adultère, laisse-moi vous dire que le problème ne s'est pas produit la journée même où l'acte d'adultère fut commis. Le problème a commencé la première journée quand la pensée est venue dans sa tête. Il a commencé à nourrir la pensée, à imaginer des choses et à donner place à ses pensées. C'est là l'échec. C'était un processus. Mais de la même façon, le succès, c'est aussi un processus. Vous n'allez pas dire, bon, aujourd'hui, j'ai réussi toute ma vie. Mais si chaque jour, vous vous présentez devant Dieu des Seigneurs, montre-moi aujourd'hui ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. C'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui? Quand vous êtes en train d'attendre à la caisse et la ligne est longue et l'attente est longue et vous êtes tenté d'être impatient, Seigneur, qu'est-ce que c'est que tu veux que je fasse? C'est quoi ta volonté pour moi aujourd'hui? Soyez toujours joyeux, car c'est la volonté de Dieu. C'est ça ta volonté. Il faut que je sois joyeux. Ça, c'est pas facile, parce que je suis pressé. Mais voyez-vous, faire la volonté de Dieu, c'est terre à terre souvent. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux que tu souris aujourd'hui. Je veux que tu sois gentil avec ton épouse. Je veux que tu sois gentil avec tes enfants. Des fois, le Seigneur nous demande à faire des grandes choses. Je veux que tu imposes les mains sur une telle personne. Je veux que tu prennes un voyage missionnaire. Ça, c'est tout beau, c'est merveilleux. On a besoin d'obéir dans les grandes choses, mais c'est en obéissant dans les petites choses qu'on est conditionné et qu'on devienne capable d'obéir dans les grandes choses. Amen. Numéro 5. N'essayez pas de combler votre vie par les vains plaisirs. Savez-vous combien de personnes y pensent que la raison de vivre, c'est juste d'avoir du plaisir? Il y a un verset dans la parole de Dieu qui dit que dans les derniers jours, les hommes vont devenir ils vont aimer le plaisir plus qu'ils aiment Dieu. Et si vous ne vivez que pour le plaisir charnel, laisse-moi vous dire, vous allez échouer le reste de votre vie. Est-ce que je suis en train de dire que Dieu est contre le plaisir? Non, pas du tout. Mais il faut prendre plaisir dans les bonnes choses. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse qui produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? C'est Bon, c'est pas mauvais de chercher le plaisir. Si on cherche Dieu, si on fait de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Psaume 1, qu'est-ce que le premier psaume dit? Hein? Quelqu'un peut me dire? Psaume 1, 1. Quelqu'un peut le citer? Hein? Heureux. C'est ça? Heureux, celui. Ah, oh, ben, c'est ça. On va le lire comme pour moi. Je ne veux pas le mal citer non plus. Oui, mais Fred, vous avez besoin de micro, là, hein? On voit cela dans la parole de Dieu, c'est clair, que Dieu n'est pas contre le plaisir, c'est Dieu qui a créé l'être humain avec la capacité d'avoir du plaisir. Vous êtes d'accord? Comme je donne toujours l'exemple, regarde juste une fraise, combien c'est délicieux. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Donc Dieu veut que nous ayons du plaisir. Mais il veut que lui soit la source de notre plaisir. Est-ce que cela veut dire qu'on ne peut jamais avoir du plaisir ici sur la terre? Oui, on peut avoir du plaisir. Dieu a créé toutes choses, il nous a donné toutes choses avec abondance pour qu'on puisse en jouir. Encore, on regarde la nourriture, on regarde Dieu qui a placé Adam et Ève dans un jardin. Le mot Éden, selon qu'est-ce que on sait, ça veut dire plaisir, le jardin du plaisir. Donc, son plan premier, c'était de donner à l'homme une atmosphère et une place pour vivre où il était entouré par une provision abondante et un plaisir abondant aussi, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est quand on oublie Dieu. C'est quand on cherche juste à satisfaire au désir de la chair. Au lieu de chercher sa face, on cherche sa main ou on cherche juste les choses pour nous donner un plaisir temporaire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données, quoi? Par-dessus. Amen. On parle toujours de comment réussir le reste de votre vie. N'essayez pas de combler votre vie par les vains plaisirs. Numéro 6. Soyez constamment. Tout le monde est constamment. Soyez constamment à nouveau, tout le monde dit à nouveau, rempli du Saint-Esprit. Soyez constamment, à nouveau, rempli du Saint-Esprit. Oui, je m'en souviens, j'étais baptisé du Saint-Esprit en 1934. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis grognon, j'aime pas mon épouse, je suis jamais de bonne humeur, mais je suis rempli du Saint-Esprit depuis 1934. Est-ce que vous savez que ça marche pas comme ça? Ici, on voit dans la parole, mais buvez à longue traite à la coupe de l'Esprit. Pas besoin d'une bouteille de vin, pas besoin d'une bouteille de bière. Buvez à longue traite à la coupe de l'Esprit et laissez-vous constamment, à nouveau, remplir par le Saint-Esprit et chercher en lui votre plénitude. Mais c'est à tous les jours. À tous les jours. Vous savez, combien de vous avez fait le plein dernièrement, cette semaine, vous avez mis de l'essence dans votre auto? Yeah. Qu'est-ce que vous faites pour conduire, hein? Daniel, elle a mis de l'essence dans son auto, c'était quelle journée? Ouais, mais écoute, c'était la semaine passée, elle a mis de l'essence dans son auto. Mais est-ce que vous croyez qu'elle aura besoin de faire le plein encore au moins une fois avant la fin de 2008? Malheureusement, oui. Mais, vous savez, combien de nous pensons qu'on peut faire le plein une fois, on est rempli du Saint-Esprit, rempli de sa présence, rempli de sa joie, et on pense qu'on est bon pour l'année ou pour la vie? Ça marche pas. Soyez constamment et à nouveau rempli du Saint-Esprit. On voit ça dans les Actes des Apôtres, en Actes 2. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en autre langue, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et puis en Actes 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Encore une fois, continuellement, constamment, à nouveau, on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est en étant rempli du Saint-Esprit qu'on est capable de connaître la volonté de Dieu dans chaque circonstance. On connaît la volonté de Dieu à travers la parole, mais aussi à travers le témoignage intérieur. Et on peut être rempli de sa présence, de sa personne, et comme ça, on va réussir le reste de notre vie. Amen. Puis finalement, numéro 7. Vivez avec une attitude de gratitude. Où que ce soit, à tout moment et pour toute chose, apportez à Dieu le Père l'hommage et de votre reconnaissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Où que ce soit. Et à tout moment et pour toute chose. Est-ce que la Bible dit? Quand vous êtes à l'église, et si tout va bien, si vous n'avez pas eu des problèmes, si tout est impeccable, si la vie est rose, rendez grâce à Dieu. Non, en toutes choses et en toutes circonstances, on devrait avoir une attitude de gratitude. Mais j'ai rien. J'ai pas vraiment raison de me réjouir. Est-ce que vous respirez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne respire pas? Si vous respirez, que tous ceux qui respirent, la Bible dit, louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Et savez-vous quoi? C'est merveilleux. Parce que quand on loue le Seigneur, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand ça va bien, c'est une bonne occasion de louer le Seigneur. Mais quand ça va mal, c'est encore une meilleure occasion de louer le Seigneur. Parce qu'en louant le Seigneur, avec une attitude de gratitude, on invite Dieu à venir, intervenir et de régler les problèmes. On a des problèmes, on a des situations difficiles. Quand on loue le Seigneur, on invite le Seigneur Jésus lui-même de venir et de trôner et de régner et de se manifester. L'Éternel siège, la Bible dit, au milieu des louanges de son peuple. Il siège, il règne, il est sur le trône au milieu de toutes les situations mauvaises qu'on peut imaginer. Dieu trône au milieu des louanges de son peuple. Une attitude de gratitude. Alléluia! Est-ce que vous êtes reconnaissant aujourd'hui? Vous voulez réussir le reste de votre vie? Voici 7 conseils pratiques. On a eu le temps juste de toucher un peu à chacun, mais méditez ces choses. Mettez ces choses en pratique. Commencez aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la première journée du reste de votre vie. Et je vous promets que si aujourd'hui même vous prenez le temps de vous examiner dans la lumière de qu'est-ce qu'on vient de vous dire là, que ça va commencer à changer votre vie. Vous serez transformé de gloire en gloire. Comme on dit, de gloire en gloire. Dans l'image de Jésus. Veux-tu venir? Alléluia. Merci, Père Céleste. Seigneur, tu es tellement bon. On va se lever debout, on va prier ce matin. Alléluia. Maintenant, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez être un auditeur oublieux ou celui qui met en pratique la parole? Amen. Moi, je veux réussir le reste de ma vie, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas échouer. Et je sais, Seigneur, que si tu es pour moi, qui peut être contre moi? C'est toi qui as commencé à moi cette bonne œuvre. C'est toi qui vas la rendre parfaite. C'est toi qui me donne le vouloir et le pouvoir selon ton bon plaisir. Et Seigneur, si je veux, je peux. Je puis tout par celui qui me fortifie. Merci, Père Céleste. Merci, Seigneur, pour tes promesses. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, car tu es bon. Tu es digne de louange. Alléluia. Donc, ce matin, on va faire quelque chose qu'on fait tous les dimanches, sans exception. J'ai donné ma parole, j'ai pris un engagement qu'à chaque dimanche, je donnerai l'occasion à ceux et celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus de donner leur vie à lui. Si vous voulez réussir le reste de votre vie, il faut commencer au commencement. Si vous voulez un nouveau départ, Jésus a dit, il faut naître de nouveau. Encore, ce n'est pas moi qui invente le terme, c'est Jésus qui a dit en Jean chapitre 3 que si vous ne naissez pas de nouveau, vous ne pouvez pas voir le royaume de Dieu. Il faut que vous naissiez de nouveau. Qu'est-ce que cela veut dire de naître de nouveau? C'est de reconnaître que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé en lui le souffle de vie. Adam, le premier homme, avait une relation avec Dieu. Il marchait avec Dieu, il parlait avec Dieu, il était en vie. Mais quand Dieu a dit, la journée que tu manges de ce fruit, tu vas mourir, et Adam et Ève ont mangé le fruit, ils sont morts cette journée-là. Mais pas physiquement, spirituellement. Leur esprit a été séparé d'avec Dieu. C'est pourquoi Jésus est venu, le deuxième Adam, il est venu, il était un homme parfait, à 100% Dieu, 100% homme. Il était tenté en toutes choses comme nous, mais sans avoir péché. Et Jésus a pris notre place sur la croix. Il a versé son sang. Il était crucifié, enterré, le troisième jour ressuscité. Et la Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, un Seigneur c'est quoi? C'est un maître. Et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé, que le Saint-Esprit va entrer en vous, vos péchés seront effacés, lavés, vous serez purifiés comme si vous n'avez jamais péché. Le sang de Jésus va vous purifier et à ce moment-là, quand Jésus est confessé, le Saint-Esprit entre dans votre cœur et fait de toi une nouvelle création. Tu es encore de nouveau en relation avec Dieu. Il n'y a plus de séparation. Tu es né de nouveau. Tu commences à zéro, une nouvelle vie. Et à chaque jour, tu peux vivre d'une manière différente. Par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit. Donc ce matin, je veux juste savoir, j'ai deux invitations. Premièrement, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, et tu dis, mais je ne sais pas si je l'ai fait ou non. Si tu ne sais pas, probablement tu ne l'as pas fait. Pose-toi la question, si en quittant l'église aujourd'hui, ton cœur arrête de battre et tu meurs, est-ce que tu as l'assurance à 100%, sans aucun doute, que tu vas aller au ciel? Si vous avez le moindre doute, aujourd'hui, tu peux savoir que Jésus est ton sauveur et Seigneur si tu acceptes Jésus comme maître. Donc, pose-toi la question. Tu dis, ah, mais je lis la Bible des fois, c'est pas ça qui va te sauver. Je vais à l'église, mais c'est pas aller à l'église qui va te sauver. Je crois en Dieu. La Bible dit que même le diable, il croit que Dieu existe, mais il n'est pas sauvé. Donc, la seule façon d'être sauvé, c'est de confesser avec ta bouche le Seigneur Jésus. Fais de Jésus ton maître, ton sauveur personnel. Et de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et Jésus a dit ceci. Si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Mais si tu me renies devant les hommes, je te renierai devant mon Père. Donc, aujourd'hui, le Seigneur t'invite, si tu n'as pas encore fait cela, de donner ton cœur à lui. De naître de nouveau. Deuxième chose, si tu es déjà né de nouveau, mais tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit, avec l'évidence nécessaire de parler en langue, comme Actes 2:4 dit, fus-tu rempli du Saint-Esprit et se mis à parler en autre langue, comme l'Esprit lui donnait de s'exprimer. C'est une expérience qui t'appartient. C'est une expérience qui va t'aider à mener une vie victorieuse et réussir le reste de votre vie. Donc, sur ces deux invitations. Je vais compter à trois. Je vais juste taper ma main. Si tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, ou si tu veux être baptisé du Saint-Esprit, juste lève la main haut dans l'air. Pense pas qu'est-ce que les autres vont dire ou penser parce qu'ils vous aiment. Ils vont juste se réjouir avec vous. Mais aujourd'hui, on vous donne l'occasion de commencer une nouvelle vie avec Jésus. Qui veut donner sa vie à Jésus? Un, deux, trois. Est-ce que quelqu'un? Juste lever la main. Il y a une personne ici, une personne là. Quelqu'un d'autre a levé la main ici? Donc, si c'est le cas, je vous invite. Juste venez ici, on va prier ensemble. Jésus a dit, si tu me confesses devant les hommes, je te confesserai devant mon Père. Si tu me renies devant les hommes, je te renierai. Ceux qui ont levé la main, je vous invite juste à venir, on va prier pour vous. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de se rejoindre à eux ce matin? Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour eux ce matin? Alléluia. Si il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de venir, on a encore le temps. Venez. Merci Seigneur. On va prier. et guide. Donc, c'est pour donner votre vie à Jésus pour la première fois. Bon. Donc, merveilleux, n'est-ce pas? La Bible dit que si un pécheur se répand, tous les anges des cieux se réjouissent. Et aujourd'hui, Guy et Martin n'ont pas honte de dire que nous voulons suivre Jésus. Et on va faire une prière. Je vais juste vous inviter à prier cette prière avec moi. Et on va tous prier ensemble, OK? Donc, répétez cette prière juste de tout votre cœur. Donc, Père Céleste, aujourd'hui, je viens devant toi et je confesse avec ma bouche que Jésus est mon Sauveur et mon Seigneur. Je n'ai pas honte de Jésus. Je te confesse devant les hommes aujourd'hui. Et je sais que tu vas me confesser devant le Père. Je déclare aujourd'hui que Jésus-Christ est mon Maître, mon Seigneur, mon Sauveur. Que son sang m'a lavé. Je suis pur. Tous mes péchés sont effacés. C'est un nouveau départ. Aujourd'hui, je suis ton enfant. Je crois de tout mon cœur que tu es ressuscité des morts et que tu vis éternellement. Et que je vais vivre éternellement avec toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. C'est merveilleux. Ça, c'est la meilleure décision que j'aurais pu prendre.